RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur et Antoine de Vulpilière, associé du groupe EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Caroline Deloye, directrice générale adjointe du groupe Gonzalez. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors racontez-nous, vous avez un BTS commerce international et vous êtes partie vivre une aventure qui est à la fois étonnante et passionnante au Mexique pendant un an. Racontez-nous.
Oui, alors à la fin de mes petites études, j'ai eu l'opportunité de stage en stage, et ça je parle un petit peu pour les jeunes s'ils nous écoutent. Les stages sont super importants parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi au Mexique. J'étais dans une filiale de Renault, la CAT.
D'accord.
Donc, filiale de transport.
Basée à Mexico City ?
Alors, basée, donc, filiale française. J'ai fait mes stages en France, à Lyon. Et ensuite, à la fin de mon cursus, ils m'ont proposé un poste au Mexique, à Mexico City.
Vous parliez espagnol à l'époque ?
Oui, je parlais espagnol, mais...
Ça s'est amélioré.
Ouais, oui.
Alors ensuite, vous rentrez en France et avec un seul envoi de CV, vous allez trouver un job à Villefranche-sur-Saône, dans le textile.
C'est ça.
Bravo, 100% là.
Bah oui, oui, c'était pas mal.
Et les périmètres...
Je pense que l'expérience internationale, avec en revenant trilingue, donc oui. Anglais, espagnol et français, a matché. En plus, je travaillais dans le transport. J'étais commerciale dans le transport. C'est un métier qui bouge beaucoup et qui... très rapide, on va dire. Enfin, les décisions sont très rapides, etc. Et là, j'ai envoyé un CV. Une amie m'a dit, tiens, il y a une société qui recherche une assistante commerciale.
Prof, c'est moi.
Et j'ai envoyé le CV par fax à l'époque. Et ils m'ont rappelé tout de suite.
Ils ont dit, 100% parfait, on vous prend.
Voilà.
Ensuite, Chamatex, c'était quoi ?
Alors, Chamatex, j'ai donc travaillé chez Sprintex à l'époque, groupe de Vaux. Et je suis partie au bout de 2 ans. Alors, j'étais au départ quelques mois assistante commerciale et je suis passée chef de zone donc en Europe, donc je voyageais beaucoup. Et puis, je me suis mariée avec la personne qui m'a recrutée.
Vous êtes mariée avec la personne qui vous recrute.
Mais mon premier
ça,
poste.
C'est un appel d'air pour les DRH de France, ça, c'est merveilleux. Hein, oui.
Et donc, on s'est mariés au bout de 2 ans et je suis partie de la société et j'ai tout de suite été chassée par une autre société de textile qui s'appelait Chamatex.
D'accord.
Qui existe toujours, mais qui n'est plus du tout la même société. Et donc là, pareil, chef de zone en Europe.
Vous n'êtes pas remariée, là, c'était...
Non, c'est bon, j'ai fini, j'ai terminé.
Alors, dites-nous, Caroline, c'est en 2011 que vous avez rejoint le groupe familial. Un mot sur l'historique, c'était créé par le papa et son frère en 71, c'est ça ?
Exactement. Donc, une société qui a 51 ans cette année. Et c'est mon papa avec un CAP fraiseur et son frère un CAP tourneur. Donc, c'est de l'usinage sur métaux. Qui, dans le garage de leurs parents, ont décidé de monter une société. Ils avaient 22 ans.
Extraordinaire.
Et vraiment, en plus, moi, je suis la première génération à être née en France avec mon frère, du côté de mon papa. On est arrivés ils sont arrivés d'Algérie, donc on est des pieds noirs espagnols, vraiment avec une valise. Et puis, mon papa avait 7 ans et au bout de plusieurs années, il a fait des petites études et il a construit, on va dire, un joyau. Et en 2011, il nous a proposé de reprendre la suite.
Le 11, c'est le frangin aussi ?
Oui, avec mon frère, qui s'appelle Damien Gonzalez, qui est le président.
Que l'on salue. Ça se passe bien en famille ? Ça ne s'engueule pas trop ? Parce que parfois, les boîtes familiales...
Non, alors en fait, ça se passe très très bien. Et parce qu'aussi, on a chacun sa place,
d'accord.
Je pense. Lui est président, moi je suis directrice générale. Et on a également un troisième actionnaire, qui est fait comme partie de la famille... qui est Jean-Marc Ancel et qui est directeur général également.
Alors aujourd'hui, donc, cette ETI, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 collaborateurs. Mm-hmm. Donc, les produits, les services que vous vendez ?
Alors on est fabricant on fait de la conception, de la fabrication et de l'intégration de machines spéciales. Des machines spéciales, c'est en fait des machines qui fabriquent tous les objets qu'on a autour de nous. Par exemple, des pneus, du placoplâtre pour Saint-Gobain, des pneus pour Michelin, etc. Donc ça, c'est pour l'industrie manufacturière. Et on fait aussi de la machine spéciale pour l'industrie normée et
d'accord.
complexe, qui est plutôt le nucléaire, l'oil and gas et l'aérospatial. Et Par exemple, pour l'industrie du nucléaire, on arrive aujourd'hui à travailler sur des projets de premier ordre et on intervient, on fabrique des machines qui sont placées au cœur des réacteurs. Et enfin, c'est vraiment des projets extraordinaires avec nos 350 collaborateurs. C'est...
Avec le nucléaire qui redevient tendance.
Oui, alors nous, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans le nucléaire et c'est bien qu'on ait démarré il y a un petit moment parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un secteur qui, pour des raisons qu'on connaît tous, doit perdurer. Ouais. Voilà, exactement.
Et le business au niveau international, c'est combien de chiffres d'affaires à peu près ?
Alors, trois unités à l'international. On en a deux en Roumanie, une au Vietnam. Et on va dire que c'est 40% à l'international, 60% en France.
Ouais, d'accord.
En France, on va faire plutôt sur de l'industrie normée complexe, même si on fait un peu de manufacturier pour Michelin encore, ou Exam pour les petites voitures, sans permis. Et en Roumanie, au Vietnam, on va faire beaucoup d'industrie manufacturière.
Arnaud, beau parcours, c'est magique.
C'est magnifique. Merci Alain. Alors, j'ai envie de vous poser une question, Caroline, parce que chez Généo, on est très attaché à l'accompagnement. Et je crois que vous avez fait les accélérateurs BPI. Mm-hmm. Si vous aviez en face de vous un chef d'entreprise de PME qui veut grandir, quels sont les arguments que vous utiliseriez pour lui dire que c'est bien et qu'il faut y aller ?
Vous avez 3 heures, Caroline.
Super, c'est pas beaucoup. Alors, en fait, j'ai suite à notre accélérateur PME qui s'est déroulé de 2017 à 2019, j'ai eu à témoigner devant des chefs d'entreprise qui prenaient connaissance de cet accélérateur. Et du coup, donc, c'est plus facile aujourd'hui d'en parler. Donc, l'accélérateur, c'est tout d'abord une bouffée d'oxygène pour les chefs d'entreprise et leurs équipes, parce qu'il y a aussi les équipes qui peuvent y participer, les fonctions support. Et c'est vraiment une prise de connaissance sur des choses, des sujets où on n'aurait pas forcément été, parce que on se sent parfois un peu petit, en termes de structure. Et puis, ça ouvre le champ des possibles, vraiment. Avec des intervenants extraordinaires lorsqu'il y a des conférences, parce qu'on a 2 ou 3 jours par mois de conférences, et aussi un diagnostic qu'ils appellent 360 degrés, je crois, si c'est toujours le même, et là, qui passe un peu en visu toute la société et qui appuie un petit peu où il faut... Il faut s'épanouir. Donc nous, on a été ravis de participer à cet accélérateur. Ça nous a vraiment fait grandir et accélérer. Pour le coup, c'est vraiment un bon
terme. Merci BPI France. Antoine.
Oui, complètement.
J'ai vu que vous étiez passé par les achats de l'entreprise. Est-ce que les crises successives que nous traversons vous ont fait revoir votre politique fournisseur, vos relations avec vos fournisseurs, votre supply chain en général?
Alors,
comment vous vivez ces différents moments un peu particuliers?
Alors oui, bien sûr, c'est complexe, surtout à l'heure actuelle et depuis le Covid. Alors ça dépend des secteurs. Sur l'industrie normée, vraiment très complexe, on a acheté des matériaux et des éléments qui sont achetés très très en amont des projets et qui sont français. Ensuite, pour l'industrie manufacturière, effectivement, aujourd'hui, on va avoir des problématiques sur l'approvisionnement de pièces pour finir des machines. Mais alors, on a toujours travaillé avec un réseau assez ancré dans le territoire, assez local en France, en Roumanie, au Vietnam aussi. Parce qu'on a 100% de nos métiers pratiquement intégrés, pratiquement 100%. Mais on travaille aussi avec des personnes qui font, quand par exemple on n'a pas assez de passage dans nos usines, pas assez de place, on fait appel à des sous-traitants. C'est assez local, c'est ancré dans le territoire. Maintenant, effectivement, pour toutes les pièces du commerce, on a des pièces sur plan et des pièces du commerce. Là, on traverse la crise comme tout le monde. Alors, revoir notre politique d'achat, je pense qu'on était déjà même assez au fait de où acheter, etc. Mais non, c'est très difficile pour beaucoup d'entreprises et ça perturbe effectivement tout le marché, c'est sûr.
Antoine ?
Alors, une autre question est toujours sur un élément conjoncturel. On observe en ce moment dans tous les secteurs, et nous, on le voit aussi chez EPSA, la guerre des talents et les difficultés à recruter, à attirer. C'est aussi ce qui fait la force des ETI, c'est de savoir s'attirer les meilleurs profils. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rend votre groupe plus attirant qu'un autre? Quelles sont les démarches que vous engagez pour sécuriser, on va dire, des personnels
de qualité? Vous êtes basé où géographiquement en France?
Alors, on est sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, donc 69, 38, 42, 74. On a 4 sites en Auvergne-Rhône-Alpes. L'industrie a été boudée depuis les années 80, hein, on le sait tous. Donc, nous, on est dans un secteur qui a vraiment énormément de peine à recruter. Puisqu'en fait, les élèves, les étudiants ne choisissent pas forcément l'industrie, que ce soit dans l'atelier ou même plus, ingénieur, etc. Donc ça, c'est une première difficulté, parce que si, par exemple, on regarde un petit peu sur l'ensemble des élèves, les professeurs, les proviseurs, etc., vont orienter les élèves dans les métiers qu'ils connaissent. L'industrie est très méconnue de la population générale. Et bien sûr, des professeurs. Mais c'est pas de leur faute, hein. C'est un constat. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Mais lorsque, bien sûr, on trouve des talents, alors on passe par des écoles, on fait beaucoup, beaucoup, on travaille beaucoup avec l'alternance chez nous. En ce moment, j'ai une quinzaine d'alternants sur mes 150 salariés de France, quand même.
C'est beaucoup.
Enfin, plus. J'ai 150 salariés en France, plus 15 alternants. Et alors, ça se transforme bien souvent. On a des alternants depuis le bac pro en usinage, en électrique, etc., jusqu'à l'ingénieur. J'ai beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui en alternance. C'est vraiment hyper important. Alors, ça se transforme en CDI. C'est toujours ce qu'on espère quand je recrute un alternant.
Et en pourcentage, c'est combien sur un alternant? Il y en a combien? 1 sur 2 qui reste chez vous?
Non, un petit peu plus quand même. On a peu d'échecs.
Ouais, c'est bien, donc ça vaut le coup de continuer cette politique.
Là où on a des échecs, c'est parfois en usinage, quand les élèves ont un bac pro ou une section classique, puis ils prennent sur un BTS usinage, par exemple. Là, ils se retrouvent au bout de 2 ans à se dire « Oh, je continue dans l'usinage » ou « Alors, je fais dans les méthodes » ou nanana. Ouais. Mais on essaye de les garder parce que chez nous, on a des projets extraordinaires avec des machines de grande capacité et qui, je pense, ça peut devenir un métier passionnant. Et j'ai des directeurs de site aujourd'hui, j'ai 7 directeurs de site, et j'en ai 5 qui sont passés par l'alternance, et parfois en BTS usineur, et aujourd'hui ils sont directeurs de site, et des VIE. Donc j'ai un VIE qui est au Vietnam aujourd'hui, qui a pris la relève du directeur de site qui était là auparavant. Enfin, ça aussi, c'est des belles transformations.
Antoine ?
Alors, une dernière question qui porte sur votre modèle de croissance. Quel a été le modèle jusqu'à maintenant ? Plutôt croissance externe, plutôt croissance organique ? Comment vous, alors, sans trahir de secret, comment vous voyez aussi un peu l'avenir ? Quelles sont les prochaines étapes pour le groupe ?
Alors, on a évolué donc, depuis 1971. On avait 2 personnes. Enfin, mon père qui a fondé et son frère. On a eu un salarié en 73 qui est parti à la retraite en août dernier, 48 ans de société.
Chapeau.
Quand même, c'est pas mal.
Il a droit à une belle médaille quand même, non ?
Oui. On l'apprécie toujours beaucoup, il nous manque d'ailleurs. Et alors, on a et racheté des sociétés et fait des créations et créé des sociétés. En Roumanie, par exemple, mon frère est parti en 2004-2005 créer la première société roumaine, de zéro. Et en 2014, on a racheté une société de 120 personnes, qui aujourd'hui est pratiquement
toujours en Roumanie
à 180. Oui,
en Roumanie.
En Roumanie. Et en France, on a créé donc Gonzalez Frères, qui est la première société, et on a racheté 2 autres sociétés. Et on en a créé 2, et on en a acheté 2. Donc, c'est vraiment, en fait...
Interne et externe, quoi.
Voilà.
Caroline, le capital de l'entreprise, ça appartient à qui ?
C'est 100% privé.
Oui.
Mon frère et moi, 80%.
D'accord.
Et un troisième actionnaire, 20%.
Et donc le capital, il va évoluer un jour ou il est fermé, tout va bien ?
pour l'instant, il est tel qu'il est aujourd'hui. On verra demain. Bon. Oui, après, bien sûr, on est toujours... Une société, c'est en constante évolution. Ça se fait par les opportunités.
Absolument.
Ça se fait par beaucoup de biais. Et oui, c'est mouvant. C'est ça qui est chouette. C'est l'amélioration.
Bon, Caroline, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. Le top 3 de vos voyages, là, pour terminer. Les trois meilleurs souvenirs de voyage. On ne vous demandera pas avec qui, hein, mais les top 3 quand même.
Ouais. Non, j'adore voyager avec ma famille, avec nos enfants, mon mari et nos enfants. Bon, on a fait les États-Unis, c'était chouette. Mexique, bien sûr, j'y ai vécu, donc c'était une très belle expérience. Et le Vietnam, que j'adore.
Et le pire souvenir de voyage, c'est quoi pour terminer?
Vous
avez bien eu une tourista quelque part, en tout cas, ça, non, ou un vol qui a été loupé, non.
Si, c'est arrivé souvent.
Bon, super Caroline, ne change rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Arnaud et Antoine. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.